La Smala est un projet d'échelle inconnue en résidence à la Gare Franche qui interroge les résonances contemporaines de la Smala, cette ville de tente dessinée par l'émir Abdelkader en résistance à la colonisation de l'Algérie. À travers une série de textes, nous vous proposons de cheminer dans le travail de recherche entrepris par Échelle Inconnue autour du schéma de cette ville, de nos représentations et des questions qu'elle pose à notre urbanitude.
Le plan DAO n'est pas le plan DAO, c'est Marseille tout entier, au moins.
Sur le plan DAO, deux barres d'immeubles attendent la démolition. Vide. Instruments de musique géants, les jours de grand vent, le Mistral joue des volets comme d'une percussion. Vide. Au rez-de-chaussée, pourtant, cinq associations attendent leur relogement. C'est de ces deux barres, de ces associations que nous partons. Tout ce que nous avons croisé ici, dans notre tentative de suivre l'écho de Smala et dessiner le schéma exotérique à l'œuvre, se trouve d'évidence dans tout Marseille.
Ce qu'on nous disait anecdotique est valable ailleurs, dans d'autres quartiers, d'autres rues. Les trois salles de prière communautaires, arabes, turques, comoriennes. La Shoni Madrasa comorienne, qui en plus de l'enseignement religieux, met en place un travail social, sport, aide aux devoirs. La revendication de certaines femmes du quartier réclamant une salle de prière pour elles. Le nomadisme faisant que la salle de prière la plus ancienne a déjà déménagé trois fois et attend de nouveaux locaux. Le fait même que les rez-de-chaussée furent à une époque, pas si lointaine, laissés de bonne grâce par les bailleurs sociaux aux associations cultuelles, dans l'espoir d'acheter un peu de paix sociale, selon certains chercheurs.
À tant se répéter, les anecdotes finissent par dessiner, en partie, le schéma que nous cherchions à faire émerger. Alors le plan DAO n'est plus uniquement l'enclave à ouvrir de toute force, le quartier particulier, vu depuis la question qui nous occupe, le plan DAO c'est tout Marseille. Il en est la mise en abîme, ou l'observatoire.
Travailler ici, sur une des possibilités de cette ville, soit, selon Bruno Etienne, une ville suivant le contour d'un schéma exotérique, c'est aussi devoir travailler sur le nomadisme et la disparition, l'absence ou l'indétermination spatiale. Le schéma que nous cherchons est souple, diffus, difficile à saisir dans les profondeurs de la verticalité historique même, il bouge.
Le lieu où Abdelkader séjourna d'abord, l'hôtel des empereurs dont il transforma le hall en salle de prière pour quelques minutes. Le chercher, trouver le numéro 5 sur la Canebière, y entrer, demander au réceptionniste si l'hôtel possède des documents datant de 1852. Se rendre compte qu'entre cette date et aujourd'hui, la numérotation a changé. Rechercher le 5 encore sur des cadastres anciens et aux archives. Vérifier qu'il ait échappé à l'élargissement de la rue en 1853 et ne fasse pas partie des immeubles détruits, frappés d'alignement. Le trouver enfin, y aller, vite le photographier précipitamment et avec le doute qui persiste.
Le premier lieu de culte musulman à Marseille ensuite, le cimetière turc ou cimetière des Galériens. Une lettre du dé d'Alger à Louis XIV en date du 23 juillet 1691 affirme « Mon très cher ami, il y a en ce pays des cimetières pour les étrangers et pour les esclaves chrétiens, mais à Marseille, il n'y a point de cimetière pour les musulmans et il est impossible de creuser des fosses sur les bords de la mer, parmi les rochers. C'est une grande punition pour eux que cela soit ainsi. Ici, il meurt 20 esclaves par jour. On les enterre dans leur cimetière, selon leur religion, en lisant leurs livres, leurs prières. des peuples qui craignent Dieu ne font pas de ces actions-là.
Le cimetière des Turcs esclaves du roi sera construit entre 1688 et 1698 sur les terrains initialement destinés à l'agrandissement de l'arsenal, situé à l'angle de l'actuelle rue de la Paix et de la rue Sainte. En 1725, comme le voisinage du cimetière risquait de faire fuir d'éventuels acquéreurs des terrains limitrophes, le cimetière fut déplacé approximativement entre l'actuelle rue Brignoles et le cours Étienne-Puget. C'est dans ce nouveau cimetière que s'établit la première mosquée de Marseille, un petit édifice à proximité d'un puits.
En 1748, les Algériens sont transférés à Toulon, où ils demanderont aussi la création d'un cimetière. À Marseille, le petit lieu de culte sert alors encore aux musulmans de passage. Un incident éclate en 1770 lorsque deux marchands marocains voulurent faire inscrire au-dessus de la porte, en caractère arabe, la fonction du lieu. La chambre de commerce s'y oppose, craignant que ceci puisse être considéré comme titre de propriété et que les Turcs en fassent une mosquée.
Au plan d'Ao, plusieurs années de politique publique, de travaux en somme, ont rendu le sol et la carte meuble tellement mouvants même qu'il est difficile de trouver le fond de plan sur lequel repérer la première salle de prière. Désigner sur le plan les lieux de deux événements distants de seulement quelques années nécessiterait une modélisation dynamique. Nous ne la possédons pas, alors nous demandons qu'on nous la dessine. Sous le stylo, René Le Cartier, sous son ancienne forme, reconstitution archéologique de l'histoire d'hier, la barre détruite, le porche, l'escalier et... Là, il y avait la salle de prière. Puis, ils ont détruit le bâtiment et elle s'est installée ici, dans un triangle, avant d'être là. Revenant du jardin, un ancien entre dans la pièce, tout sourire, regarde le plan, opine du chef, prend un stylo, dessine un triangle. Puis sort et veut le montrer. Avant, il prend le temps de tracer dans le sable une ligne, ici la Méditerranée. Un point, Alger. Un autre, beaucoup plus bas, je viens de là. Il marche vite, traverse le quartier, je vais vous montrer. S'arrête au pied d'une des deux barres, bientôt détruite, et désigne le petit local électrique au plan triangulaire, accolé à l'immeuble. C'était pas celui-là, mais c'était le même. Au retour, il veut montrer où sont morts les soldats algériens qui ont libéré le plan d'Ao pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où le quartier était une base militaire allemande. « Moi, je les ai tous vus de près. De Gaulle, Massu, Chirac, Le Pen. » Il les mime.
Ici comme ailleurs à Marseille, où dans d'autres temps les mosquées bougent, se déplacent. Pour Eidari, c'est le lot des mosquées du retour, celle de la génération de ses parents qui comptait un jour rentrer au pays. Des mosquées ou des salles de prière, en attendant, qui n'avaient pas besoin d'être fixées dans la pierre. Ici, elles bougent encore, se déplacent. Les trois salles et la chaunie doivent s'assembler dans un même espace selon une étrange opération. 80 mètres carrés x 3 égale 65 mètres carrés. Monsieur Djebli, le responsable d'une des salles de prière du quartier, est là dans le jardin de la gare Franche. Ici, ce ne sont que des associations. Les locaux, ce n'est pas un droit, alors ils peuvent nous mettre dehors quand ils veulent. Pour faire une mosquée, un minaret, je ne sais pas si c'est obligatoire. Au temps du prophète, on montait sur le mur pour faire l'appel à la prière, on montait même sur la Kaaba. Le minaret est haut pour qu'on entende l'appel. Mais aujourd'hui, ici, on ne le fait plus. Le dôme, oui, ça me semble obligatoire, mais le minaret. À Marseille, il n'y a pas de vraie mosquée, ce sont des salles de prière en groupe. Toute la terre peut être un lieu de prière.
Il montre le sol.
La terre n'est pas souillée, la terre est propre.
Les salles de prière peuvent disparaître, se réinstaller.
On peut changer de lieu pour prier.
C'est comme la smala. Si vous voulez. Retrouvez la Smala sur les 3-8 du mardi 14 au dimanche 19 septembre à 9h45 et 14h30. Ce projet d'échelle inconnue en résidence à la Gare Franche est détaillé sur le site www.journal-smala.org.